réplique, lire et relire Madame Bovary avec Marie-Hélène Lafon et Philippe Dufour. J'ai appris, il y a quelques semaines, dans le journal Le Monde, que la New Romance, comme on dit en néo-français, était le fil d'or de l'édition. Épicée par des scènes érotiques, les histoires fleurs bleues se vendent comme des petits pains. Pour Marion, 22 ans, infirmière et lectrice assidue, cela fait beaucoup de bien de lire des choses légères, de belles histoires d'amour. Le phénomène est tellement puissant et tellement rentable qu'aucune maison d'édition, aussi prestigieuse soit-elle, ne passe à côté de cette aubaine. Ainsi se dessine peut-être le visage livresque de l'après-littérature. Mais il est encore possible de résister et pour cela de faire lire ou relire Madame Bovary. À cet effet, j'ai invité la romancière Marie-Hélène Lafon et Philippe Dufour, professeur de littérature française à l'Université de Tours. Ouvrons donc Madame Bovary. Qu'est-ce que ce roman a à nous dire sur l'incidence de la romance, sur la manière dont celle-ci, ancienne ou nouvelle, pénètre dans le monde réel et régit les existences, Marie-Hélène Lafon?
Ce serait, à mon avis, quelque chose qui aurait à voir avec l'inépuisable attente du bonheur, qui passerait très souvent par l'amour et toutes ses déclinaisons possibles et inimaginables. À mon avis, c'est par là que ça nous attrape. Et c'est par là que Madame Bovary ne nous lâche pas non plus. La possibilité du bonheur, horizon d'attente, tout le travail que ça suppose, toute l'énergie déployée que ça suppose, et Dieu sait que Madame Bovary en déploie de l'énergie. Et le vertige aussi que ça engendre, et parfois la catastrophe, mais la catastrophe n'est pas toujours certaine. Le pire n'est pas toujours sûr.
Philippe Dufour.
Oui, je crois qu'effectivement, Madame Bovary peut passer pour une héroïne de romance dans ses rêves. Et tout le drame du livre, c'est qu'il y a un écart entre les rêveries, les histoires de contes bleus que peut faire Emma depuis ses lectures au couvent, ou depuis les gravures qu'elle a regardées dans des albums, et la réalité, le petit bourg villageois de Yonville, par exemple, dans le roman.
Arrêtons-nous quand même à l'emprise exercée par une certaine littérature sur Emma Bovary. Elle est au couvent, en effet, et au couvent, elle n'est pas tant formée par la religion que par certains romans qu'elle est amenée à lire. Ce n'était qu'amour, amant, amante, dame persécutée s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis et qui pleurent comme des urnes. Pendant 6 mois à 15 ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Et puis, il y a cet échange, là, je trouve très révélateur, avec le premier homme, après son mariage, qui l'a fait vibrer, c'est Léon. Léon, le clerc de notaire. Léon dit d'abord « J'aime surtout les poètes, je trouve les vers plus tendres que la prose et qu'ils font bien mieux pleurer. » Réponse d'Emma, cependant il fatigue à la longue, et maintenant au contraire, j'adore les histoires qui se suivent tout d'une haleine, où l'on a peur, je déteste les héros communs et les sentiments tempérés comme il y en a dans la nature. En effet, observa Leclerc, ces ouvrages ne touchant pas le cœur, s'écartent, il me semble, du vrai but de l'art. Il est si doux parmi les désenchantements de la vie de pouvoir se reporter en idée sur de nobles caractères, des affections pures et des tableaux de bonheur. Voilà. Et elle et lui se nourrissent de la même mauvaise littérature, et ça me fait penser à cette maxime de La Rochefoucauld, il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Eh oui, mais elle entend parler de l'amour, Emma Bovary, dans de très mauvais romans, et ça a une incidence grande sur sa vie, Marie-Hélène Lafon.
Ça commence mal, vous voulez dire ?
Oui.
Voilà. Je dirais de surcroît qu'elle est livrée à ce type de littérature, pieds et poings liés, en état de virginité absolue, c'est-à-dire quand elle est au couvent, elle n'a que ça à se mettre sous la dent. On a le sentiment que les valeurs familiales, par exemple, qui eussent pu lui être transmises, etc., tout ça n'existe pas. Elle est démunie devant cette littérature et elle va en effet en concevoir un pli d'être, une façon de voir la vie qui, évidemment, par la suite, va la mettre dans des draps fâcheux. Il n'y a pas d'antidote. Elle n'a rien en face pour faire contrepoids. Elle a une brève période d'émotion religieuse, mais ça ne tient pas. Elle aura ensuite, elle tâtera du piano, mais ça ne tient pas non plus. Rien ne tient en face de ce mirage magnifique et inépuisable de l'amour. Et dans la scène que vous avez lue tout à l'heure, c'est aussi une scène de séduction. Ils sont déjà dans la séduction.
Oui,
c'est-à-dire que Léon est déjà en train de déployer ses plumes de paon. Il fait le paon, il fait la roue, Léon, le clerc de notaire, qui se mêle de dire ce qu'est la littérature et ce que l'on doit lire. Il fait la roue, Léon.
Il fait la roue, Léon. Il essaie de lui plaire. Dans un premier temps, il n'ira pas jusqu'au bout de sa tentative parce qu'il est encore timide.
Oui.
Quand il reverra Emma, après avoir vécu à Paris, qu'il prendra sur lui de la séduire pour de bon,
voilà.
Marie-Hélène Lafon.
Il est appâté, là, parce que c'est la scène inaugurale où elle tend son petit pied chaussé de velours noir à la flamme de la rôtisserie du Lion d'Or.
Oui.
Ça, il l'a vu, Léon.
Il
est ferré.
Philippe Dufour.
Oui, je crois qu'effectivement, on a l'impression d'une sorte de déterminisme dans l'éducation d'Emma, hein, dès la scène du couvent, donc où elle se fabrique ces images qu'elle va confronter ensuite à son existence. Puis il y a un deuxième épisode aussi, je crois, très important pour cette rêverie, pour cette façon de vivre avant d'avoir vécu, c'est le bal de la Vaubyessard.
Oui,
la valse avec le vicomte. Donc voilà un amant idéal qui va rester dans sa mémoire. Elle en garde comme un fétiche le porte-cigare qu'elle renifle de temps en temps pour se rappeler ce moment. Et les amants réels, Léon, Rodolphe, ne seront pas à la hauteur de cette image-là qu'elle s'était fabriquée par avance.
Oui, alors d'ailleurs, enfin, il ne s'agit pas simplement d'Emma Bovary. Là, Flaubert découvre un pan du réel. Et d'ailleurs, le mot de bovarisme sera forgé à partir du roman de Flaubert, par Jules de Gautier, puis repris par le philosophe Georges Palante, le bovarisme, le pouvoir qu'a l'homme de se concevoir autre qu'il n'est. Et c'est vrai, c'est-à-dire que ce sont des illusions que Emma Bovary transporte avec elle, mais des illusions d'une certaine manière productive, c'est-à-dire la réalité masquée par un mensonge embellissant, une certaine idée de l'amour, et en même temps, cette réalité est modelée aussi par ce mensonge. Et l'homme se conçoit, ou la femme en l'occurrence, se conçoit autre qu'elle n'est, et ça a des effets de réel absolument dévastateurs.
Oui.
Marie-Hélène Lafon.
C'est-à-dire que ça a des effets de réel dévastateurs à partir du moment où l'abîme qui s'ouvre sous ses yeux de jeune marié entre les illusions et ce que le réel lui fournit va être totalement vertigineux. Elle finira, elle a beaucoup dansé face à cet abîme, c'est ce qui fait le roman. Puis elle finira par sombrer.
À sombrer.
Mais elle a bien dansé, Madame Bovary. Je disais tout à l'heure qu'elle emploie une énergie phénoménale quand même à incarner ses illusions. Et c'est vrai que Rodolphe fait à ses yeux un candidat un certain temps plausible. Le lecteur a une longueur d'avance, hein. Il sait que Rodolphe n'est pas plausible.
Oui, il le sait tout de suite.
Forcément, on le sait tout de suite. Mais elle...
Ah, parce que lui, à la différence de Léon, Rodolphe est un séducteur.
Totalement.
Une sorte de libertin. il veut profiter de la naïveté d'Emma Bovary. Il s'enivre d'ailleurs de la sentimentalité qu'elle déploie, mais il veut simplement garnir son tableau de chasse. Et ça, en effet, le lecteur le sait tout de suite. Oui. Le sait tout de suite. Mais alors, justement, c'est intéressant parce que on sait que, et on y reviendra, Flaubert était littéralement fasciné par la bêtise, et la bêtise est très présente dans Madame Bovary, mais il n'y a pas simplement les idées reçues. On a l'impression que pour Flaubert, il y a aussi des sentiments reçus. Et pour dire les choses autrement, la bêtise telle que Flaubert la découvre comme un continent de l'existence humaine, c'est ce que Heidegger, plus tard, dans Être et Temps, appellera la dictature du « on ». Il dit « Nous nous réjouissons comme on se réjouit, nous lisons, nous voyons et nous jugeons de la littérature et de l'art comme on voit et juge, plus encore, nous nous séparons de la masse comme on s'en sépare. » C'est très intéressant parce que aussi bien Léon que Emma veulent se séparer de la masse, avoir des sentiments supérieurs. Nous nous indignons de ce dont on s'indigne et dit ce « on » prescrit le mode d'être de la quotidienneté. Mais on peut presque dire que nous aimons comme on aime. C'est-à-dire, oui, ce sentiment le plus authentique, il est aussi fabriqué, imposé par l'environnement, et notamment, pour ce qui est d'Emma Bovary, l'environnement littéraire. Philippe Dufour.
Oui, il y a cette omniprésence de la bêtise, cette dictature du « on », effectivement. Et d'ailleurs, dans les romans de Flaubert, le pronom « on » devient un personnage. Il y a la voix du « on dit », la communauté villageoise qui juge les conduites. Donc il y a des manières reçues de vivre. Emma résiste à ces manières-là en proposant une autre manière reçue, pourrait-on dire. Donc c'est une autre forme de bêtise, mais qui, dans l'ironie complexe de Flaubert, fait ressortir la bêtise de la dictature du « on hein, », de ce « on » qui ne veut pas qu'on vive autrement que lui. Et Flaubert, dans sa correspondance, donne au « on » véritablement le statut aussi d'un personnage. Il parle de l'éternel et exécrable « on ». Vous voyez, il en fait un substantif.
Ah oui, donc avant Heidegger, en quelque sorte.
Oui.
C'est déjà présent.
Mais il me semble qu'il y a une sorte...
Marie-Hélène Lafon.
Il y a une sorte de capillarité entre le « nous » et le « on ». C'est-à-dire qu'on est tous le « on » de quelqu'un. Et Flaubert participe aussi à sa façon du « on ». Il en joue... Il se décale, il déploie des variations. Moi, j'ai une difficulté à établir comme ça une sorte de muraille infranchissable entre le « nous » et le « on ». Il me semble que la complexité du monde, la complexité de l'homme Flaubert et la complexité de ses personnages laissent une place pour cette multiplicité d'interférences, voilà, d'adhérences, comme on le dit au sens médical et fâcheux du terme, entre le « nous » et le « on ». Et puis, il y a aussi des personnages qui sont comme une incarnation du « on ». C'est Homais, évidemment.
Là, nous voyons effectivement l'exploration de la bêtise à l'état pur. Et c'est Homais, mais j'ajoute Marie-Hélène Lafon, bournisien.
Oui, bien sûr.
Ces deux-là font la paire. Ce sont les deux bêtises qui s'affrontent. Et vous voyez, et au XVIIIe siècle, il y avait le grand combat des Lumières et de la superstition. Or, de ce grand combat, que reste-t-il, au XIXe, selon Flaubert, deux avatars de la bêtise? Parce que Homais est plein de la philosophie des Lumières. Il se réfère explicitement à Voltaire, mais aussi à Rousseau, qu'il réconcilie. La profession de foi du vicaire savoyard, les immortels principes de 89, et l'abbé Bournisien. Flaubert se moque de l'anticléricalisme et d'un personnage qui justifie pleinement l'anticléricalisme. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Bournisien, parce que Bournisien est d'un matérialisme total. Emma Bovary vient le voir, parce qu'elle a le vague à l'âme, mais il ne sait pas ce que c'est que l'âme. Il lui prescrit presque un médicament. Il lui dit, bah oui, non, mais ça doit être la digestion, à peu près. Et puis surtout, il y a la faim. terrible, atrocement comique. Emma Bovary est morte dans d'atroces douleurs puisqu'elle a pris de l'arsenic. Et Bournisien et Homais la veille, tous les deux, ils trinquent, ils mangent, ils boivent, ils trinquent, ils disent finalement on va se réconcilier. Et ils s'endorment,
absolument,
l'un comme l'autre. Et le dernier mot du livre, c'est, je crois...
Il vient de recevoir...
Il vient, voilà.
Oui, la croix d'honneur. Et c'est Homais qui vient de la recevoir. Voilà, et c'est lui ça. Qui fait venir Canivet pour autopsier ce malheureux Charles.
Oui. Il vient de recevoir la croix d'honneur, oui, en effet. Et c'est qui, Canivet?
C'est une sommité médicale
que
Homais fait venir pour autopsier Charles. On ouvre Charles et il ne trouva rien. Le livre sur rien.
Oui, il ne trouve rien. Oui, parce que Charles aussi meurt. Et Charles meurt de chagrin, puisqu'il a perdu la femme qu'il aimait, nous y reviendrons. Et surtout, il apprend, en fouillant sa correspondance, qu'elle a eu deux amants, le clerc de notaire, en qui elle faisait grande confiance, et Rodolphe. Et donc, il a une double souffrance, si vous voulez, la perte... Et une sorte de jalousie rétrospective. Et en effet, il meurt dans son jardin. Sa fille, Berthe aussi.
C'est elle qui le trouve, sur la tonnelle adultère.
Voilà, Berthe le trouve. Berthe qui naît et pour laquelle Emma n'a pas vraiment d'affection.
Elle voulait un garçon d'abord.
Oui, elle voulait un garçon.
Elle voulait un Georges. Elle avait un prénom de garçon.
Ah oui, c'est ça.
Et puis Georges, c'est quand même pas rien, c'est Georgos, ça propose un homme.
Elle le veut parce que dans la société du 19e siècle, les femmes...
Philippe Dufour.
Les femmes ont de l'ambition par procuration, donc elles parviennent par les hommes. Donc elle se dit que si elle a un garçon, la vie sera plus facile pour lui, que, alors qu'une fille répétera son existence,
un garçon
existence
à elle. La vengera de sa solitude, au fond. Parce que ce que ça dit aussi, quand même, c'est une grande solitude d'Emma. La romance ne peut, à mon avis, envahir et tenir Emma en laisse à ce point-là que parce qu'elle est dans une immense solitude. Encore une fois, elle est livrée pieds et poings liés. Merci. Par exemple, elle n'a pas de mère, Emma. Enfin, sa mère meurt.
Oui.
Et on ne sait pas, peut-être que cette mère, par sa présence, eût pu donner un autre aiguillage à la vie d'Emma.
Oui.
Alors Flaubert fait entendre cette solitude,
oui.
Parce que dans le roman, Emma monologue beaucoup, nous sommes dans ses pensées, le narrateur les commente aussi parfois, donc il y a cette vie parallèle, et la vie de romance qu'elle ne pourra pas réaliser, elle la vit dans ses rêves, par exemple la scène de l'enlèvement avec Rodolphe, on a une magnifique description de ce voyage où elle part en diligence en Italie avec Rodolphe, mais donc c'est dans sa pure imagination.
Oui, parce qu'ils avaient projeté.
Oui, ils avaient projeté.
Ils avaient projeté, elle avait préparé ses bagages.
Oui.
Et c'est au dernier moment, évidemment, qu'il annonce que ça n'aura pas lieu. Il écrit une lettre de rupture terrible, qu'il peaufine. Il n'arrive pas à pleurer, donc il verse un peu d'eau sur la lettre. Mais effectivement, elle imagine ce voyage avant qu'il n'ait eu lieu. Mais venons-en maintenant, parce qu'on parlait de la bêtise. Les idées reçues, les sentiments reçus, le « on ». Le « on » qui est partout. Et il y a un personnage... dont on peut dire qu'il est bête, mais je trouve qu'il échappe à la bêtise, c'est-à-dire il échappe, malgré sa bêtise, à l'ironie flaubertienne. Parce que de Charles, l'époux, on apprend ceci, cette phrase extraordinaire, « La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. » Voilà, c'est Charles. Mais je lis aussi ceci dans la biographie de Michel Vinocq sur Flaubert. La déception qu'éprouve Emma devant Charles est celle de nombreuses jeunes femmes de son temps, épouses de maris souvent plus vieux qu'elles, plus soucieux de leurs affaires que de l'épanouissement de leur compagne. Mais c'est pas tout à fait. Justement, il y a une différence avec Emma. Certes, elle est déçue, comme beaucoup de femmes de son époque. C'est pas tout à fait un mariage arrangé, mais enfin, c'est pas une rencontre au bal de Vaubyessard. Loin s'en faut. Mais Charles n'est pas plus soucieux de ses affaires. Charles est immédiatement fou d'Emma. Et cet amour, oui, en quelque sorte, le transcende à nos yeux. Et donc, nous éprouvons pour lui, tout au long du livre, une compassion telle que dans votre Flaubert, Marianne Lefond, vous dites, vous faites une vraie déclaration, j'aime Charles.
Oui, j'aime son Charles.
J'aime son Charles,
oui,
pardon.
Oui, tout à fait. Et Charles serait bête. Bon, mais il échappe à sa bêtise, il la transcende totalement et d'un bout à l'autre du livre par cet amour éperdu qu'il conçoit dès la première fois qu'il la voit, parce que en voilà une apparition, comme on aura une apparition dans l'éducation sentimentale, ce fut une apparition au Berthaud. Quand il arrive à l'aube pour réparer cette fracture raisonnable, heureusement que la fracture est raisonnable, sinon on se demande ce qui serait advenu, elle est là. Et il est invraisemblable qu'une femme comme celle-là, une jeune fille, c'est une jeune fille, soit là. Et c'est là que le destin... Parce que Charles, jusqu'à présent, il avait une vie peineuse. Hein. Il avait ses études pénibles, cette mère invraisemblable, cette première épouse accablante.
Terrible.
Terrible, absolument terrible.
Oui. Elle fait peur, sa première épouse.
Là, sa vie devient un destin. Et un grand destin. Ce qui fait qu'on parle encore aujourd'hui de Charles.
On parle de Charles, oui. Mais justement, c'est vraiment un personnage très singulier, ce Charles Bovary. C'est l'ironie de Flaubert. Et n'épargne personne, même Emma d'ailleurs, sauf Charles peut-être, qui échappe à l'ironie flaubertienne.
C'est vrai, c'est vrai, oui. En particulier dans le final, où il y a une sorte de rédemption, où on découvre cet amoureux fou hein, qui essaie de, justement, lui aussi, Bovary, d'une certaine façon, il essaie de tirer le fauteuil d'Emma devant le foyer pour faire comme si elle était encore là. Hein, donc il y a effectivement... Enfin, Charles croit à quelque chose. Et je pense que, aux yeux de Flaubert, c'est important. Hein, croire à quelque chose, même si l'on est dans l'illusion. Et c'est ce qui fait que Charles, ou Emma aussi, ne sont pas des victimes de l'ironie comme Bournisien ou Monsieur Homais. Hein, parce qu'ils ont postulé un idéal, hein, quel qu'il fût.
Oui. Hein,
et dans la scène de l'auberge où l'on voit Emma discuter avec Léon, échanger des lieux communs romantiques, nous possédons un commentaire de Flaubert dans une lettre qui dit que, bon, certes, la scène est ironique, ce sera le premier roman où l'on se moque de son jeune premier,
oui,
de sa jeune première,
oui.
Et il ajoute, mais l'ironie n'exclut pas le pathétique, elle l'outre au contraire. Et je crois qu'il y a ce pathétique à outrance qui entoure certains personnages et qui les distingue, je dirais, des personnages comme Homais ou Bournisien qui, eux, s'identifient simplement à une idéologie, hein, qui sont les porte-voix du discours du on.
Oui.
Et l'émotion qui nous accompagne,
oui,
autour de ces personnages. Charles, à mon avis, atteint le sommet de lui-même. Après la mort d'Emma, donc il chérit leur fillette. Hein, c'est un père tendre.
C'est un père tendre.
Et cette tendresse, on la retrouve dans la correspondance de Flaubert quand Flaubert écrit à George Sand que, au fond, il a raté sa vie, il a été lâche quand il était jeune, et que il l'écrit, déployer des trésors de tendresse avec un Victor ou un Totor qui aurait sauté sur ses genoux. Et cette tendresse là, c'est Charles qui la déploie. Alors que Emma, elle, pour le coup, ne la pratique pas du tout. Et la scène au cabaret d'Argueil, où il dit à Rodolphe, « Je ne vous en veux pas, je ne vous en veux plus, c'est la faute de la fatalité », à mon avis, c'est là que Charles devient un géant. Et ensuite, il est foudroyé. On ne sait pas par quoi, d'ailleurs, hein. Mais au fond, il meurt de chagrin.
Il meurt de chagrin. Il y a une forme de sainteté chez lui, d'ailleurs, on peut dire. Mais ce qui est terrible aussi, c'est la description de l'agacement progressif d'Emma Agalor à l'égard de Charles. Ça a quelque chose d'épidermique. Elle se sentait d'ailleurs plus irritée de lui. Il prenait avec l'âge des allures épaisses. Il coupait au dessert le bouchon des bouteilles vides. Il se passait après manger la langue sur les dents. Il faisait, en avalant sa soupe, un gloussement à chaque gorgée, et comme il commençait d'engraisser, ses yeux déjà petits semblaient remonter vers les tempes par la bouffissure de ses pommettes. Cette description est absolument terrible. Je pense à un passage d'Anna Karénine, où Anna, soudain, et agacé par les oreilles de Karénine. Tout d'un coup, voilà, l'exaspération congéliale qui se manifeste comme cela, et Flaubert n'a pas son pareil pour la décrire. Et d'ailleurs, à un moment, elle le chasse de sa couche, il va dormir à l'étage, et elle passe ses nuits, justement, dans ses lectures frénétiques, qui continuent à nourrir son imagination.
D'ailleurs, une autre, oui, Madame Bovary, à savoir la mère de Charles, a bien compris le pouvoir pernicieux de ses lectures.
Oui, c'est vrai.
Elle pourrait laisser de mettre un peu d'ordre, parce qu'elle entend, elle, par ordre, dans le ménage de son fils, elle commence par vouloir interdire ses lectures, hein, et que l'abonnement au cabinet de lecture soit résilié, etc. Et elle voit bien, la mère, que quelque chose passe par là. Mais bon, c'est trop tard.
C'est trop tard. L'ironie aussi de Flaubert se donne libre cours, je crois qu'il faut en dire un mot, dans une des scènes les plus célèbres du livre, la scène du fiacre. Alors d'abord, il y a une chose extraordinaire, c'est-à-dire que Rodolphe fait sa déclaration, Rodolphe, lui, lors de la cérémonie des comices agricoles. Et cette déclaration est accompagnée, si on peut dire, en bruit de fond, par un discours d'un conseiller, Lieuvin, je crois, aux comices. Un discours, alors là, pour le coup, plein de lieux communs ronflants. Et il se passe quelque chose d'un peu du même type à la cathédrale, où Léon et Emma ont rendez-vous, puisqu'il y a un Suisse qui fait le guide et qui veut absolument leur dévoiler toutes les merveilles de la cathédrale, ce qui empêche Léon de déployer son éloquence, ce qui l'exaspère, etc. Donc, les deux scènes entrent en résonance, et alors ensuite, ils vont l'un et l'autre, enfin, ils vont ensemble dans le fiacre, et leur scène d'amour, nous ne la voyons pas. Nous voyons simplement, de l'extérieur, ce fiacre, cette boîte close, dans laquelle, effectivement, se déroule la scène érotique. Elle devient sa maîtresse. Il y a quand même quelque chose de très dur, de très ironique dans la prose de Flaubert, non ?
Le fiacre passe et repasse.
Voilà.
Si. Hein. Et on perçoit aussi l'ahurissement du conducteur du fiacre, qui sent bien que quelque chose lui échappe, quoique. Mais on est déjà aussi, vous venez de dire close. Boîte close, maison close, parce qu'Emma ensuite, c'est dit dans le texte, hein, Emma ensuite aura, lorsque les relations avec Léon vont s'exaspérer et qu'on va entrer dans le processus déceptif, forcément, elle aura des ardeurs et des façons de faire que Flaubert qualifie de... elle a des manières de professionnelle.
Ah oui.
Voilà, dans sa façon de délasser son corset, etc. L'aspect clos qui est fondamental, à mon avis, il y a quelque chose déjà qui est programmatique là-dedans.
Oui, la scène avec le corset, bon, est une scène qui fait scandale et que retient le procureur,
oui,
lors du procès. De Madame Bovary. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la scène du fiacre a déclenché le procès. Tout simplement parce que Flaubert avait d'abord publié en revue, hein, son roman, et la revue lui demande de supprimer la scène. Donc du coup, le procureur s'est imaginé tout un tas de choses sur ce que pouvait être cette scène, que l'on ne voit pas dans le roman. Et c'est ce qui a provoqué la mise en accusation pour atteinte aux bonnes mœurs et à la religion. Et l'avocat de Flaubert va lire la scène pendant le procès pour dire, vous voyez bien, bon, c'est simplement un fiacre qui circule dans les rues.
Ce que l'on ne voit pas a plus de puissance que ce que l'on voit.
Oui, bah oui.
Ce que l'on flaire, suppose et imagine a plus de puissance. Oui. Alors, moi, je ne suis pas lecture de romance. Je ne sais pas si dans les romances qui ont tant de succès aujourd'hui, on déploie les scènes érotiques ou pas. Mais en tout cas, là, le fait de ne pas la déployer décuple le pouvoir de la chose.
Oui, alors là, je voudrais vous lire une partie de l'analyse que fait Sartre dans L'Idiot de la famille de cette scène de la voiture Astor tendu. Les amants, leur éloquence, leur caresse, leur baisade, on les a changés en cet objet ensorcelé, une boîte noire hermétiquement close sur quatre roues. Et Sartre ajoute, ce passage donne à voir la baisade comme l'emportement grotesque et terrifiant d'un objet matériel. Donc lui dit, voit les choses autrement, quoi. C'est-à-dire, la description nous est épargnée, et c'est ça quelque chose, en effet, de grotesque et de terrifiant, Philippe Dufour.
Oui, c'est vrai que le côté grotesque apparaît notamment avec le cocher, bon, qui lui rêve de, voilà, de boire du vin plutôt que d'être en train de parcourir sans cesse les rues de Paris. Il ne comprenait pas cette fureur de locomotion, voilà, écrit Flaubert dans le texte. Donc c'est vrai où il y a ce décalage des registres, très souvent d'ailleurs chez Flaubert, hein, entre ce que l'on attendrait et une version grotesque. Ce que Flaubert appelait aussi dans sa correspondance le grotesque triste. Et on revient à cette ambiguïté des tonalités, effectivement. Donc, la scène prête à rire et en même temps, bon, le lecteur est invité à réfléchir aussi sur cette manière.
Oui, Sartre dit ceci, les amours de Léon et d'Emma ne prêtaient jusque-là qu'à sourire. Ils deviennent tout à coup obscènes et grotesques. Quel tour leur a-t-il joué le misérable? Eh bien, il a pris un homme et une femme tout chaud de désir, tout vivant, convaincu de se donner librement l'un à l'autre, et il a métamorphosé le couple enlacé en un seul fiacre. La transition s'opère au moyen d'un lieu commun adroitement choisi, la lourde machine se mit en marche. Voilà. Donc, mais alors justement, venons-en au procès. 1857. Grande année pour la littérature, puisque c'est le procès des Fleurs du Mal et le procès de Madame Bovary. Flaubert est poursuivi pour atteinte aux bonnes mœurs et à la religion. Alors, comment les choses se sont-elles passées, Philippe Dufour ?
Alors donc il y a eu ce procès devant un tribunal correctionnel, hein, où le procureur retient 6 passages du livre. Ça n'est pas une lecture globale du livre. Et 6 passages qui, effectivement, mettent en question, aux yeux du procureur, les bonnes mœurs à travers l'institution matrimoniale qui est bafouée par cette histoire d'adultère. Et puis la religion, notamment la scène de l'extrême onction, l'abbé Bournisien donne le sacrement, mais en même temps redéfile toute l'histoire d'Emma, toute sa sensualité. Et c'est ce mélange de volupté et de sacré qui irrite le procureur, et les débats vont tourner autour de cette question, qui en même temps est une occasion de faire le procès du réalisme. Puisque depuis 1850, disons, ce mouvement prend de la place en peinture avec Courbet. Il y a déjà eu le scandale d'un enterrement à Ornans et des casseurs de pierre. Et puis maintenant, en littérature avec Flaubert. Et donc Flaubert va être acquitté, mais il y aura quand même un blâme adressé à l'esthétique réaliste. Une sorte de « à bon entendeur, salut ». Cette esthétique est à blâmer. Donc il va y avoir un effet de censure par provision, je dirais.
Oui, le tribunal inflige à Flaubert un blâme sévère, car, je cite, « la mission de la littérature doit être d'orner et de recréer l'esprit en élevant l'intelligence et en épurant les mœurs, plus encore que d'imprimer le dégoût du vice en enfrant le tableau des désordres qui peuvent exister dans la société. » Voilà, une mission assignée à la littérature.
Une littérature édifiante.
Littérature édifiante. Mais on en a fini avec cet ordre moral-là. Est-ce qu'on a fini, on en a fini avec tout autre ordre moral aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr. L'idéal ascétique ne tient plus la route, mais au nom de l'idéal égalitaire, aujourd'hui, on traque l'inégalité jusque dans l'alcôve. Et il y a très souvent, justement, des remises en cause de certaines œuvres. jugée dangereuse. Mais c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Venons-en maintenant au style de Flaubert, à l'écriture de Flaubert. Qu'est-ce que... Hélas, nous ne sommes pas exactement dans le réalisme. Qu'est-ce que Flaubert a apporté, Marie-Hélène Lafont, à l'écriture des romans? Vaste sujet, je sais.
Il est épuisable. Il a déjà apporté, en tout cas pour ceux qui se mêlent d'en écrire après lui, une sorte d'horizon inaccessible. Le propre de l'horizon est toujours de se dérober, hein, et de créer un désir et une attente. Donc, à cet égard, Flaubert est inépuisable. Hein. Il est dans Madame Bovary, mais il est, pour moi, toujours et déjà, dans les 30 pages d'Un cœur simple. Donc, je dirais que pour ceux qui se mêlent d'écrire, je ne parle pas de ceux qui se mêlent de lire, quoique ça va souvent ensemble, hein, mais pour ceux qui se mêlent d'écrire, c'est quand même aussi la statue du commandeur. Hein. Et une sorte de passion, au sens christique du terme, de la langue. Voilà. Tant que la langue vivra, c'est dans la correspondance avec George Sand. Voilà. Hein. Donc, je crois que ça, cette passion, ce sacerdoce, en quelque sorte, c'est son sacerdoce à lui, il l'a fiché au cœur du monde, quoi. Voilà. Pour moi, c'est définitif.
J'écris non pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour les lecteurs qui se présenteront tant que la langue vivra.
Voilà.
Et cet extrait a été abondamment commenté par Barthes, qui se pose la question. Oui, la langue peut mourir. Et si la langue meurt, si elle n'est plus parlée, eh bien à ce moment-là, il n'y aura plus de place pour la littérature. Et alors justement, c'est la statue du commandeur, dites-vous. Mais il y a aussi ce passage extraordinaire d'une lettre à Louise Collet. « La prose est née d'hier, voilà ce qu'il faut se dire. Le vers est la forme par excellence des littératures anciennes. Toutes les combinaisons prosodiques ont été faites, mais celle de la prose, tant s'en faut. » C'est-à-dire voilà que Flaubert assigne à la prose une mission équivalente à celle de la poésie. La prose doit être belle, belle de part en part, comme la poésie. Et d'où justement son travail. On arrive au style qu'avec un abord atroce, avec une opiniâtreté fanatique et dévouée. Et c'est intéressant de dire ça, Philippe Dufour, parce que la correspondance de Flaubert prouve qu'il écrivait très facilement et très bien. Mais il a besoin de ce labeur, atroce, parce qu'il veut aller au-delà de cette facilité d'écriture.
Oui, c'est vrai.
La même exigence pour le roman que pour le poème.
Oui, il avait une grande facilité d'écriture. On le voit aussi dans ses œuvres de jeunesse qui sont vraiment écrites au fil de la plume, alors que les œuvres de la maturité vont être raturées. Les brouillons de Madame Bovary, ce sont 3600 pages avant d'aboutir à la version définitive.
Cinq ans
d'écriture. Oui, ce sera le rythme pour tous ces grands romans. Et on voit sur les brouillons le travail de la phrase, du rythme de la phrase, des sonorités. Donc sont vraiment des préoccupations de poète, effectivement, sur les assonances que Flaubert n'aime pas, hein, qu'il supprime, il pourchasse les répétitions de mots, et il prononce ses jugements de valeur pour son panthéon littéraire, je dirais, sur ce critère-là. Par exemple, Balzac lui apparaît comme un grand réaliste, évidemment, un grand écrivain, mais un écrivain sans style. Il y a une lettre à Louise Collet, pendant la jeunesse de Madame Bovary, alors que Flaubert n'a pas encore publié ce grand livre, où donc avec insolence, il dit « Quel grand homme eût été Balzac s'il eût su écrire, mais il ne lui a manqué que cela. Un autre, après tout, n'aurait pas tant fait. » Donc c'est aussi un compliment, mais bon, perfide, je dirais.
Oui, mais alors, justement, il y a aussi cette autre confidence à Louise Collet, que je trouve tout à fait extraordinaire, et qui en effet... peut agir sur tout écrivain, quand je découvre une mauvaise assonance ou une répétition dans une de mes phrases, je suis sûr que je patauge dans le faux. À force de chercher, je trouve l'expression juste, qui était la seule et qui est en même temps l'harmonieuse. L'expression juste, qui était la seule et qui est en même temps l'harmonieuse. Il y a une sorte de convergence absolument mystérieuse entre le vrai et le beau.
Oui.
C'est beau, c'est vrai, donc c'est beau. Et c'est cela que recherche sans cesse Flaubert, d'où en effet, pour le lecteur, un plaisir étrange. C'est-à-dire, on est passionné par le roman, on lève sans cesse la tête pour savourer la beauté stupéfiante des phrases. Certaines, on voudrait les apprendre par cœur, comme dans un poème, Marie-Léna Fond.
C'est-à-dire que la justesse des phrases, leur élan, leur allant, le caractère nécessaire de chaque mot, porte dans la lecture. C'est la première lecture. Quand je lis Madame Bovary pour la première fois à 14 ans, dans le cadre d'un programme, enfin d'une injonction scolaire, honnêtement, je n'y comprends à peu près rien. Hein. Ça, c'est sûr. Et je n'ai aucune conscience à ce moment-là de ce que c'est que la beauté. Vous voyez, la beauté de la langue, la justesse, etc., les caractères stylistiques, rien. C'est à la sauvage. Et ça me porte. Et je suis jetée dans le grand bain et je ne me noie pas. Parce que, me semble-t-il aujourd'hui, hein, parce que justement, il y a cette puissance, cette force de la langue qui vous prend, qui vous embrasse et qui vous met au-dessus de vous-même aussi. Parce que il met la langue au-dessus d'elle-même et nous, le lecteur, il nous, il y a une force qui nous porte. Voilà. Donc, moi, j'ai gardé au fond plus de 50 ans plus tard, largement 50 ans plus tard, un peu de la virginité de cet élan premier, voyez, qui ne s'est jamais démenti au fil de mes relectures. C'est peut-être un miracle, ça aussi.
Oui.
C'est le miracle de Flaubert. Aussi.
Alors c'est vrai, il y a des phrases étonnantes. Celle-ci, la parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles. Mais c'est étonnant ce que vous avez dit, Marie-Anne Lafont, parce que ça fait penser à ce qu'écrit Sartre dans Les mots. Il a lu Madame Bovary, il le dit, à 15 ans. Mm-hmm. À peu près comme vous. Mm-hmm. Et il y a connu, dit-il, le plaisir ambigu de comprendre sans comprendre. Et voilà pourquoi, personnellement, je n'aime pas trop l'idée d'une littérature pour la jeunesse. Ils font plonger très tôt les adolescents dans la très grande littérature qui les débarrasse. Voilà.
Oui, parce que l'injonction...
La volupté de comprendre sans comprendre, c'est vraiment la meilleure entrée possible dans l'univers des grands romans.
L'injonction à tout comprendre est forcément réductrice.
Oui.
Comprenons sans comprendre.
Comprenons sans comprendre et retentons. Et revenons à Madame Bovary, que nous sommes loin, d'avoir épuisé.
C'est elle qui nous épuisera.
C'est elle qui nous épuisera, oui. C'est vrai, la terrible bêtise du pharmacien, parce qu'il y a une scène absolument déchirante sur laquelle je voudrais que nous nous attardions un tout petit peu, c'est Hippolyte. Mmh. Hippolyte, l'employé du Lion d'Or, il a un pied beau. Il a un pied beau, Hippolyte. Et c'est Homais qui dit, on peut guérir le pied beau. C'est une opération très facile à faire. Charles ne veut pas. Mais Charles est gentil. Charles est influençable. Charles se laisse convaincre. L'opération se passe bien au début, et puis c'est atroce. Il souffre d'une gangrène épouvantable. Le pauvre Hippolyte, un chirurgien vient l'amputer dans les conditions que l'on sait. Charles en conçoit un remords terrible. Homais s'en fout complètement. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette scène, Philippe Dufour ?
Oui, c'est une scène, c'est vrai, très émouvante. Et c'est là qu'on voit que Flaubert, l'impassible, hein, sait créer des émotions en nous. Et ici, à travers un personnage, au fond, très secondaire dans le livre, mais qui, dans cette scène, a tout à coup une présence, je dirais même jusque dans sa réaction, il n'en voudra pas à Charles Bovary. On ne l'entend pas se récriminer. Et il va réapparaître au moment de l'enterrement de Madame Bovary. Donc, on est dans l'église et on entend tout à coup un bruit sur les dalles. C'est sa jambe. Tout le monde se retourne, et il y a donc, c'était Hippolyte, il avait mis sa jambe neuve. Oui, alors, jambe neuve parce qu'il a deux jambes de bois. Hein, une pour le tous les jours, que c'est plus pratique, et puis une plus sophistiquée que Madame Bovary lui avait offert.
Voilà,
pour... Donc il y a là un trait, enfin je trouve très touchant parce que c'est un trait de psychologie paysanne aussi. Dans mon enfance, le dimanche, il fallait mettre les souliers du dimanche pour aller à la messe. Donc Hippolyte, lui, avec unijambiste désormais, bon, met sa jambe neuve pour assister à l'enterrement d'Emma. Donc on peut trouver le détail, là encore grotesque, mais très touchant.
Il y a le détail. Vous avez parlé de... Il y avait ours et tendre tout à l'heure dans la phrase que vous avez lue.
Oui.
Et Flaubert est un ours tendre. Et il est tendre, son regard sur Hippolyte est tendre. Et c'est le même regard, à mon sens, que sur Félicité. Hippolyte et Félicité sont de la même famille.
Oui. Ou je dirais pour Madame Bovary que le regard sur Catherine Leroux, la vieille servante dans la scène des comices, où il va faire un magnifique portrait de cette femme, de ses mains. Le portrait se centre sur les mains usées par la vie. Et tout à coup, Flaubert, qui pourtant se faisait un principe de ne pas intervenir dans ses œuvres, va conclure le portrait par « Ainsi se tenait devant ces bourgeois épanouis ce demi-siècle de servitude ». Donc là, tout à coup, il devient le porte-parole de ce personnage qui n'a pas de langage, comme Hippolyte. Ce sont des personnages qui ne parlent pas, qui sont les exclus, voilà, les invisibles, comme on dirait.
Les invisibles, aujourd'hui. Oui.
Il a de l'affinité et de l'intuition avec les écrasés qui sont sans voix, Hippolyte ou Catherine Leroux ou Félicité, tout en étant ce qu'il est lui, hein, c'est-à-dire un homme servi dans la vie.
Hein. Mais oui.
Il n'appartient évidemment pas à
non, à c'est cette... un rentier.
Bien entendu, c'est un rentier. Bien entendu.
Et heureusement qu'il y avait des rentiers, comme ça, ça nous a donné Flaubert et Proust.
Voilà.
Et je répète la phrase, la parole humaine est comme un chaudron fêlé, où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles.
Voilà, c'est ça.
Et Flaubert réussit, en effet, à attendrir son lecteur et donc à attendrir les étoiles. Et maintenant, j'en viens pour finir à la phrase, peut-être apocryphe, mais peut-être pas, Madame Bovary, c'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Flaubert pensait une chose pareille?
Oui, c'est une phrase rapportée par Amélie Bosquet,
voilà.
Donc on ne sait pas s'il l'a effectivement prononcée, qui semble au départ faire témoigner d'un agacement face au fait qu'on cherchait des clés au roman, hein, notamment des faits divers. Donc c'est pour écarter aussi ces pistes-là.
Le procès de Lamarre, hein, c'est ça?
Oui, le procès de Lamarre.
C'était quoi ça?
Donc c'est un fait divers où il y avait eu effectivement donc une histoire d'adultère et un empoisonnement, une ruine financière. Donc il est tout à fait possible d'ailleurs que Flaubert se soit, qui connaissait cette histoire de Lamarre, se soit inspiré d'un fait divers, mais il en fait tout autre chose. Et pour lui, l'intérêt du roman, c'est que Madame Bovary, c'est lui et ce sont toutes les femmes aussi. Il dit dans les villages, il y a tout partout une Madame Bovary qui pleure et qui soupire. Donc il y a cette Madame Bovary est un personnage auquel on peut s'identifier.
Alors que pensez-vous, vous, de cette formule rapportée, Madame Bovary, c'est moi?
Mais
est-ce que vous diriez Madame Bovary, c'est moi, d'ailleurs, non. Marie-Hélène Lefond? Non.
Moi, je dirais Charles, c'est moi. Non, il me semble que c'est une façon de... C'est moi qui... Madame Bovary, le roman... Le personnage, c'est moi qui l'ai fait. Ou c'est moi qui l'ai faite. C'est-à-dire que je la connais du dedans. Et je les connais du dedans. L'un et l'autre. Les uns et les autres. Pour moi, c'est une déclaration de puissance aussi du romancier, de puissance de l'écriture. C'est aussi ça. Hein. Ça ne l'enivre pas. Peu de choses enivrent Flaubert. Il garde les pieds sur terre. Mais il a quand même une conscience aiguë de sa puissance. Pour moi, ça veut dire ça aussi, Madame Bovary, c'est moi. Parce qu'on joue beaucoup sur Flaubert, le gros mâle coulé dans le corps menu et infiniment séduisant d'Emma. Mais ça veut dire tout autre chose. À mon sens, c'est une question de style, de langue, de puissance.
Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il a eu lui-même une période romantique qu'il l'a surmonté. Et que, à travers Emma Bovary, d'une certaine manière, et ses lectures, il la revit. Et la revivant, effectivement, il peut dire, Madame Bovary, c'est moi.
Il y prend du plaisir.
Oui, je pense qu'on pourrait le comprendre effectivement comme cela, une manière de revivre son adolescence, sa jeunesse par procuration, hein, à travers ce personnage. Et c'est un romantisme qu'il va conserver dans une œuvre comme La Tentation de Saint-Antoine, voilà. Par exemple.
Jusqu'à la fin de sa vie, il va le conserver.
Jusqu'à la fin de sa vie. Merci beaucoup à tous deux. On peut lire Madame Bovary, bien sûr. Dans la collection Folio, mais on peut le lire aussi, une très belle édition critique chez Honoré Champion, Madame Bovary, une édition critique de Philippe Dufour. Vous avez aussi publié Flaubert, un livre d'introduction à son œuvre, dans la collection Les auteurs de ma vie, chez Bûcher-Chastel, Marie-Hélène Lafont. Et puis, il y a deux livres collectifs chez Hermann, que vous avez co-dirigé, Philippe Dufour, Flaubert dans son siècle et Flaubert en images, chez Hermann donc. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Benjamin Perru. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Situation de la démocratie ». Mes invités seront Dominique Schnapper et Marcel Gauchet, dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.